L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en septembre, c'est du jamais vu. On t'offre 15% sur nos fameux Ram 1500 DT 2024 tout le mois de septembre. Aussi, tu penses changer ton véhicule à essence pour l'électrique, on t'offre jusqu'à 16 000 $ de rabais sur notre superbe Dodge Hornet Hybride 2024. Ou 169 $ par semaine, 48 mois, 0 $ comptant. En septembre, c'est du jamais vu chez... L'Étoile Dodge Chrysler.
Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chien, un chaloux. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Hey, on sait bien. Ils ont 16 games de jouer international. Ils peuvent se permettre de critiquer. Hey, on rit pas.
Écoute bien, ça me fait vomir quand je les regarde. Ça n'a pas de place dans mon équipe. Ça ne mérite pas d'avoir un uniforme.
Entrez dans le vestiaire. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Bon début de semaine, mesdames, messieurs. Dominique Bolduc, bonjour.
Michel.
Dans le vestiaire aujourd'hui, on va parler dans les prochaines minutes avec Francis Véropol. Aujourd'hui, c'est le tournoi de golf des fêtes du 350e. Et l'ancien joueur des Sags est impliqué beaucoup dans la communauté. Il va nous expliquer c'est quoi son implication. Puis, évidemment, sa carrière de joueur de hockey est pas mal terminée.
Oui, absolument.
On va le questionner là-dessus tantôt. Maintenant, j'ai une question pour toi, Dominique.
Vas-y.
Il y a quelqu'un de très connu dans le monde du sport qui s'est marié en fin de semaine.
Qui s'est marié?
En fin de semaine.
J'ai vu que Samuel Montembeau, gardien de but du Canadien, lui, il a demandé sa blonde en fiançailles.
Ouais, mais c'est pas dans le milieu du sport professionnel à Montréal.
OK.
Ici, dans la région, quelqu'un de très connu qui s'est marié en fin de semaine.
Écoute, je sais pas.
Indice, une fille.
Une fille?
Une fille très connue dans le monde du sport. Là, je vais donner un autre indice, ouais. Tu vas trouver tout de suite. Patinage de vitesse.
Marianne Saint-Gelais?
Non, Valérie.
Valérie Maltais?
Valérie Maltais s'est mariée en fin de semaine. Puis ça m'amène à te parler, Dominique, à un dossier qu'on va traiter cette semaine, autant dans l'actualité que dans le sport. C'est que demain, il y a un point de presse à l'abbé concernant l'affichage du centre Jean-Claude Tremblay. Oui, rappelle-toi, dans les dernières années, on a nommé une glace en l'honneur Valérie puis Dean Bergeron.
Dean Bergeron,
et
oui.
Ce sont deux athlètes qui ont fait leur marque dans le monde du sport.
Absolument.
Dean avec les Jeux
paralympiques,
puis ancien joueur de hockey, d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu son accident. Mm-hmm. Puis Valérie Maltais, qui nous a représenté et en patinage de vitesse.
Courte piste et longue piste.
Et là, ben, dans les dernières années, il y a eu la glace Dean Bergeron et il y a 2 ans, la glace au nom de Valérie à l'honneur Maltais. De Valérie Maltais. Puis...
Dans le centre, Jean-Claude
ouais,
Tremblay.
Sauf que l'affichage, ça faisait parler pas mal les gens de la baie. Puis moi, j'en ai discuté beaucoup avec les conseillers de la place, puis Rénal Simard, qui est le président de l'arrondissement de la baie, entre autres. Il nous a dit, on va voir à ça. Alors demain, on va rectifier le tir.
Okay.
On va améliorer l'affichage. Puis parce que là, un moment donné, on se disait, Jean-Claude Tremblay, ça existe-tu encore?
C'est-tu encore le centre Jean-Claude Tremblay?
C'est encore le centre Jean-Claude Tremblay, puis on va le confirmer demain avec la glace Valérie Maltais, puis la glace Dean Bergeron. Puis toujours concernant Jean-Claude Tremblay, Dominique, on va lancer un livre sur sa carrière.
Oui.
À la fin du mois, c'est Michael Lalancette. Très connu, là. D'ailleurs, il en est
qui pas... Qui est natif des deux coins, Fernand
qui est natif de ce coin-là. Il va écrire... Puis, c'est un livre que je vais éplucher du début à la fin. Parce que, d'abord, comme joueur de hockey, il a une carrière exceptionnelle. Sauf que moi, Jean-Claude Tremblay, j'en ai entendu parler à gauche et à droite, là, par des anciens joueurs des Nordiques, par des anciens joueurs du National
ben oui, qui ont joué avec.
Ils ont joué avec. Puis c'est un gars qui avait un caractère bouillant, là.
Ben, ça a l'air
il était
bourré,
puis même Gaston Therrien, puis on va parler avec Gaston des
on
prochains jours.
Gaston aussi.
Puis il nous en a déjà parlé de Jean-Claude Tremblay, parce que Jean-Claude, il a coaché
aussi.
Gaston Therrien.
Oui.
Alors, on en saura un petit peu plus dans ce volume, dans ce livre qui sera sorti à la fin du mois sur la vie de Jean-Claude Tremblay. Puis en parlant de Gaston Therrien, tu sais que depuis un mois, on discute régulièrement avec Mario Roberge.
Tous les vendredis.
Tous les vendredis. Puis Gaston Therrien revient ce vendredi dans le vestiaire. Alors, on va faire un petit spécial vendredi. C'est que Gaston Therrien va arriver dans le vestiaire à 4h moins quart avec Mario Roberge.
Okay.
Puis Mario Roberge va continuer jusqu'à 4h et quart. Fait que pendant une demi-heure, Dominique, toi et moi, on va jaser et avec Mario et avec Gaston Therrien.
Ça va être intéressant parce que, tu sais, quand même des gars qui ont touché à la Ligue nationale.
Oui.
Gaston a joué, Mario a joué sporadiquement, mais c'est quand même plus que pas mal de monde, plutôt puis moi.
Puis Mario a gagné la coupe.
Puis Mario, il a gagné la coupe.
Il y a bien des joueurs qui ont 1000 parties dans la Ligue nationale d'hockey, ils n'ont pas gagné la coupe.
Eh oui,
là, tu vas me dire, il n'a pas joué beaucoup, puis c'était un homme fort et un protecteur. Mais il était là. Tu sais, l'année de la dernière coupe, puis Mario, il nous en a parlé déjà dans le vestiaire de l'ambiance qu'il y avait.
Puis moi, je l'ai fait venir sur peut-être ce qui a fait tourner la série, la première ronde contre les Nordiques.
Oui.
Le fameux, la protection du cercle de mise en jeu au centre, parce que Ron Extall, il venait tout le temps mettre son patin de l'autre côté. Puis on a mis Mario Robert. Je dis, je ne sais pas s'il a mis une petite puce à l'oreille ou un doute dans la tête, mais après ça, le Canadien est parti sur une séquence de 11 victoires consécutives. Puis les Nordiques étaient se retrouvaient en vacances alors que tout le monde voyait les Nordiques éliminer le Canadien dès le premier tour. C'est pour ça qu'il est arrivé.
Puis avec Mario et Gaston Therrien, on va discuter vendredi du début du camp d'entraînement. Parce que là, il y a l'examen médical, les recrues.
Camp des recrues.
Et là, ça commence en fin de semaine. Et le gros questionnement, puis on en discute depuis déjà quelques temps dans le vestiaire, Lane Hutson puis Logan Mayhew, est-ce qu'ils commencent la saison? Puis je te repose la question. D'autres, on pense que oui. Est-ce que les deux... Là, il y a eu le départ de Harris, il y a un défenseur de moins... Mais tu sais, ces deux jeunes inexpérimentés.
T'as Mayhew, t'as également Strouble, qui a fait une bonne fin de saison, qui pourrait brouiller les cartes. T'as toujours Justin Barron, qui est là aussi. T'as quelques places disponibles.
Tu sais, t'as des valeurs sûres, le Matheson,
Savard, Gouli, ça c'est beau, c'est réglé.
Tu sais, même Jekai, à cause de sa robustesse.
Là, t'as un top 4 qui est fait. Ouais. Qui va prendre les deux places qui restent? T'as une bonne liste de gars, là. Puis, même un petit peu à l'attaque, on parle d'Olivier Kapanen, là, qui, selon son coach en Finlande, on dit, lui, là, il va voler un poste dans la Ligue nationale. Il y a des bons espoirs chez le Canadien. Maintenant, c'est à eux d'impressionner et de se tailler une place.
On a mentionné le nom de Jekai, son frère Florian.
Florian.
Semble-t-il que c'était un bon joueur d'hockey.
Ah oui, puis il est fort comme un ours, comme son frère.
Il est fort comme un ours. Puis, quand j'ai joué au golf avec Gaston Therrien cet été, il me disait, moi, là, j'essayerais Jekai à l'avant. Je t'en avais déjà parlé, t'étais hésitant là-dessus. Là. Puis moi aussi, j'étais hésitant. Sauf que sur un quatrième trio, puis même en avantage numérique, tu l'envoies devant le filet, il débarrasse la net. Là.
Il
fait de la place. Parce que souvent, des joueurs comme Caulfield, il n'ira pas dans l'enclave.
Non, lui, il va se tenir au cercle.
T'sais, Suzuki, pas gros non plus.
Ça prend un gros gars en avant.
Là, c'est sûr qu'on a le nouveau venu, Patrick Laine, qui est gros et grand.
Oui.
Lui, il va probablement y aller devant le gardien de but. Mais ça en prend un pour cacher la vue puis déranger le défenseur. Est-ce que Jekai pourrait être un avenue, mais tu sais, puis il y a un bon lancé? En tout cas, c'est toutes des choses qu'on va discuter dans les prochaines semaines avec Mario Robert puis Gaston Therrien. Puis là, le camp, il commence en fin de semaine. Mais là, il y a des gens qui s'ennuyaient de hockey. Là, c'est tout le monde est énervé. L'arrivée de Patrick Laine, les jeunes, les Canadiens vont faire les séries. Mon Dieu, qu'on a des discussions à voir dans le vestiaire. Ça va être le fun. Maintenant, c'était l'ouverture de la saison dans la NFL en fin de semaine et on a beaucoup de choses à dire. D'abord, en fin de semaine, Dak Prescott qui a signé un contrat.
Devient le carrière le mieux payé, 60 millions par saison.
Là, on se rapproche du salaire de Shohei Ohtani, là.
70 millions, oui.
Tantôt, là, peut-être pas, mais d'ici 2-3 ans, Shohei Ohtani ne sera plus le joueur le mieux payé dans le sport. Là, il est à 70. Dak Prescott s'approche.
60.
Et tantôt, d'ici 2-3, il ne sera pas longué.
T'as Stephen Curry qui est à 65 au niveau du basketball. Mais tu sais, ce qui est fou avec Prescott, c'est que c'est 60 millions pour 17 matchs.
Pour 17 matchs.
Ohtani en joue 162. Ouais. Curry en joue 82. Mais là, je peux comprendre, le football, c'est pas mal plus dur, mais c'est quand même... presque 4 millions par rencontre.
Il ne faut pas oublier une chose. Shohei Ohtani, là, il ne va même pas sur le terrain défensif.
Non.
C'est juste comme batteur, les comme frappeur.
Désigné.
C'est payant ta barouette de jouer au baseball. Là.
Il vient 4-5 fois. Il va peut-être même jamais toucher à la balle. C'est arrivé. Il a été 0-4. Ça peut arriver.
Sauf qu'à Diapin, il est déjà rendu à 40. Et est-ce qu'il va se rendre à 50-50?
Ben, je pense que oui. Il est 46-46. Là,
les buts volés, je suis certain.
Oui, puis.
Ça, les buts volés, il peut en voler 2-3 de game.
Il reste 4 longues balles à aller chercher, une vingtaine de matchs à jouer.
Ouais. Faut pas. Ben, regarde, Judge. Là,
Judge est en panne. Il est en panne. Lui, il est arrêté à 51 depuis quasiment 15 jours. Puis, il veut pas les lanceurs. Le lanceur qui va l'affronter, il veut pas être le lanceur qui a donné ce jeu-là.
Mais même s'il ne veut pas, Mané Kanchoué, Ohtani va pincer. Hier, je ne sais pas si tu as vu le circuit, 450 pieds du
claque,
nord. J'en ai parlé ce matin dans l'émission Réveillez-vous. Hier, parce que je pitonnais, j'ai regardé la partie des Jays. Ils ont encore perdu ça. Ils n'ont pas de releveur. Enfin, ils n'ont pas de releveur, les Jays. Puis là, je pitonne, je m'en vais au match des Dodgers. Puis là, je vois le 46e circuit de Shohei. Je dis, il n'y avait pas de monde dans les estrades. Ça, oui. Ça se peut pas, Los Angeles, toujours plein. Alors là, après le match, je vérifie un peu les commentaires. J'entends les discussions.
Fait chaud.
Il faisait 103 degrés, mesdames, messieurs.
Surtout hier, en ville, avec l'humidité, ça doit être suffocant. Puis. D'ailleurs, il y a des feux de forêt là, qui touchent la Californie actuellement. On doit évacuer certains secteurs. Donc, là, pourquoi il y avait un petit peu moins de monde là.
Alors, il y a été question de football. Dak Prescott, il y a eu aussi Tyreek Hill. Il y a eu arrestation spectaculaire avant le match des Dolphins de Miami. Et là, il y a des gens qui ont filmé ça. Parce que quand ils ont arrêté Tyreek Hill, les policiers, c'est le visage au sol.
Couche à terre, puis, les mains dans le dos.
Puis, là, il a tué quelqu'un, puis ça... Pas de ta fête, là. Non. Hey, ils l'ont libéré, bien joué. Il a même un touché.
On parle peut-être de conduite dangereuse et tout ça, mais ouais. Il y a quand même il y a des choses raciales là-dedans. T'sais, il est allé là-dessus, t'sais, il dit, si je m'étais pas appelé Tyreek Hill, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été un noir pas connu? Ouais. Écoute, il a amené ça sur la place publique. Ça va faire énormément jaser cette semaine.
OK, maintenant, football chez nous. Les deux équipes ont subi la défaite, les Cougars et les Gaillards. Mais les Gaillards, on n'est pas habitué d'annoncer des revers, des défaites pour cette équipe collégiale.
Puis pour Philippe Leduc, il l'avait dit lors du premier match, même si les Gaillards l'avaient emporté, ça a été pareil dans le deuxième. On manque de prouesse au niveau de l'offensive. La défensive fait le travail. C'est en offensive qu'on n'arrive pas à aller chercher des points, à générer des points, comme on était en mesure de le faire l'année passée. Donc là, il va falloir travailler là-dessus. Parce que là, c'est une première défaite. Écoute, la dernière défaite des Gaillards remonte à 2022. T'sais, l'année passée, ils ont tout gagné avec le bol d'or. C'est la défaite du bol d'or en 2022 qui a été la dernière défaite des Gaillards. Et là, hier, défaite en temps régulier. On n'a pas été en mesure d'aller chercher la victoire. Et là, il faut travailler. Là. Il y a des choses à... Ce n'est pas une équipe parfaite cette année. Là. Il y a des choses à peaufiner, dont l'attaque là, qui... on cherche à générer des choses. Puis du côté des Cougars, c'est une leçon de baseball qu'on a eue en fait.
Ouais.
Le football, pardon.
Le football. Et toujours, dans nos équipes régionales, les Saguenayens, ils n'ont toujours pas perdu. Là, tu vas me dire, c'est des matchs en concours, mais ils vont avoir une bonne équipe.
Ben, ils vont avoir une bonne équipe.
Tout le monde, on parlait beaucoup de Massé l'année passée, là, mais Guité. Cette année, ouais. Le nom de Guité revient surtout à l'élève de tout le monde.
Je suis en train de me demander s'il ne sera pas meilleur que Massé.
Ben, je pense que oui.
Écoute, de ce qu'on voit d'Émile Guité, c'est extraordinaire. Il est dominant. Godette semble être un bon joueur
de 20
ans. Oui, Godette,
c'est une belle trouvaille.
Et moi, ce qui m'a rassuré, c'est seulement un match. Précourt qui fait 48 arrêts d'une victoire de 4 à 1.
Est-ce qu'on vient de trouver notre gardien de but numéro 1?
Oh, absolument. C'est Précourt. On a fait des changements, on a fait des transactions pour justement faire la place à Précourt. Il a démontré dans ce match-là à Passe-Pébiac samedi qui pouvait être le gardien numéro 1 des Saguenayens pour les 2-3 prochaines années.
Alors, c'est le temps que ça commence. Le Canadien, ça débute en fin de semaine, le camp d'entraînement. Les Saguenayens, on est dans les matchs hors concours. Bon, on le sait, les deux prochaines saisons s'annoncent des plus intéressantes, des plus prometteuses. Les élites midget, ça a débuté. Puis il y avait du monde. Je suis allé
J'ai vu ça. Il y avait du monde. Les Astros, il y avait beaucoup de monde.
Bonne foule pour les élites midget vendredi soir. Ils ont perdu contre Lévis, les Chevaliers de Lévis. Puis au début, la première période, une chance que le gardien de but, il était bon, le gardien de but des Chevaliers. Les joueurs des élites bourdonnaient. Là.
Oui, ils ont mené dans les tirs en première période. Et il y a les marqués également qui ont commencé leur camp d'entraînement. Apparemment qu'il y a des belles surprises.
Tu me parles des surprises. Puis vendredi, au Fouet des loisirs, Éric Gravel était là, le président des marquis. Puis je discutais avec, puis il me dit, Michel, il dit, retiens le nom de Mathieu Lemay. J'ai dit, c'est-tu le gars qui arrive de l'Allemagne, là, parce qu'il a joué en Allemagne? Oui. Il dit, oui, semble-t-il qu'il est bon. Martin Lemay. Puis après Mathieu ça, Lemay. Il m'a parlé de William Blackburn, avec qui on a déjà jasé dans le vestiaire, parce que lui, il était gardien de but dans le junior majeur.
Qui a été repêché par les marquis cet été.
Et lui, il était avec les Foreurs de Val-d'Or.
Exact.
Et alors là, il vient de finir son junior majeur, il n'a vu de la rondelle, il est bon lui aussi, il pourrait... devenir l'un des gardiens de réguliers des Marquis de Jonquière.
Ce que je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui étaient présents au camp en fin de semaine, ils dit c'était le meilleur des trois gardiens. Il a seulement 21 ans, mais tu sais, un gars mobile qui fait face au lancer, toujours bien positionné. Il sort du junior, là. Il a peaufiné ça pendant les quatre dernières années. Est-ce qu'il pourrait brouiller les cartes? Moi, je pense que Bob Desjardins va l'essayer durant les matchs hors concours. C'est sûr et certain que vous allez le voir en action. Mais est-ce qu'il pourrait brouiller les cartes et détrôner peut-être un Philippe Cadorette, peut-être un Tristan Bérubé. Bérubé, je ne suis pas sûr, c'est quand même notre numéro un, c'est un jeune gardien, mais est-ce que Cadorette pourrait être détrôné? Je ne sais pas. Mais c'est une lutte intéressante, puis d'avoir un gardien de la place qui performe, écoute, ça serait très bienvenu.
Et puisqu'il est question des marquis, si c'est pas demain, ça va être cette semaine dans le vestiaire, on va jaser, on va faire venir ton nouveau collaborateur
oui.
pour la description des parties des marquis, Jean-Dominique Lepage.
Exactement.
Avec qui j'ai joué au hockey aussi il y a une couple d'années. Jean-Dominique qui sera le, ton colorman, ton analyste. Il a suivi
il était là en fin de semaine.
Le premier week-end des marquis de Jonquière. Fait qu'il va nous raconter comment il a vécu ça. Puis je suis content, là. Tu sais, déjà, il prend son rôle au sérieux.
Absolument.
Son rôle d'analyste.
Écoute, il m'a envoyé une liste de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a moins aimé. Je vais te caller, il va être prêt. Puis manquez pas ça lors des reportages des marquis dès le 4 octobre. On va essayer de remplir les entractes. Avant, on allait en musique, mais quand il va y avoir des choses, surtout la
mais première... Non, mais tant qu'à être dans le hockey, là, tu sais, ben, je comprends qu'on mettait de la musique. Moi, ce que j'aime dans un reportage de 2-3 heures, dans le hockey professionnel ou le junior ou la Ligue nord-américaine, tant qu'à être dans un reportage de sport, de hockey, allons-y, les entractes,
exact.
Des commentaires, ben, des entrevues.
On va
moi,
les avoir
très
quand
confiant.
Même. On va les avoir assez remplis, puis oui, il va y avoir des entrevues avec des joueurs puis des membres de l'équipe.
Puis tu sais, la Ligue nord-américaine, on la couvre depuis plusieurs années. On est la seule station.
Dixième saison, je crois. Dixième
saison. La seule station chez nous qui offre le service des reportages en direct des matchs des marquis. Ailleurs dans la Ligue, ça s'en vient. Même le National de Québec, il y en a sa première année.
Oui.
Ils ont engagé
Jean-Michel Fortin.
Jean-Michel Fortin qui était avec nous l'an passé. Alors, même le National va présenter des matchs à la radio. Gilles Pélot, avec qui on discute régulièrement.
Saint-Hyacinthe.
Lui, il va faire des matchs à la télévision, là, sur le web.
Oui, aussi, oui.
Alors, la Ligue nord-américaine continue d'avancer, de faire des pas importants vers le gros hockey professionnel. Dans les prochaines minutes, on va discuter avec Francis Véropol, qui est l'invité d'honneur du tournoi de golf des fêtes du 350e. Francis, qui il va nous le dire, là, je lui ai posé la question en fin de semaine quand j'ai discuté avec lui, il a pas mal mis une croix sur sa carrière, il a eu des blessures.
Oui, il a eu des blessures au cou, puis écoute, il est rentré à quoi, 35, 36 heures, rajeunit pas, il a des belles fonctions, il a un bon travail et tout, donc on peut mettre le hockey derrière. Il a eu une belle carrière malgré tout.
Puis à 16 heures, ben, toujours avec un ancien joueur des Saguenayens, Hamelin, qui sera notre invité.
Brandon Hamelin, qui joue actuellement pour les Pétroliers de Laval dans la Ligue nord-américaine. Et eux autres, ils l'appellent un peu leur couteau suisse, un très bon joueur. Il connaît une belle saison depuis qu'il est arrivé à Laval et qu'il est passé par les Saguenayens.
Alors restez des nôtres, on a jusqu'à 16h30 pour vous parler de sport dans un petit moment. Francis Véropol.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
Bienvenue, mini supermarché spécial restauration. Pizza 10 pouces, pépé fromage ou garni à seulement 12,99$. Oui, j'ai bien dit, la pizza 10 pouces à 12,99$. Ou encore plus, deux pizzas pour 23,99$. Bienvenue, mini supermarché restauration, rue Bégin et boulevard Saguenay.
Cet automne, le ministère des Transports et de la Mobilité durable lance l'enquête Origine-Destination 2024. Avez-vous reçu une invitation par la poste pour y participer? Prenez quelques instants pour y répondre. Que ce soit à pied, à vélo, en automobile ou en autobus, parlez-nous de vos déplacements. Votre participation contribuera à améliorer la mobilité durable au bénéfice d'une économie plus verte. Un message du gouvernement du Québec.
Ne manquez pas tous les jours de semaine l'émission du matin la plus près de vous. Réveillez-vous avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Entrevues, chroniques, histoires, politiques, tout ce qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'Auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'Auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel.
Réveillez-vous dès 6 heures tous les matins de semaine au 92.5, ma radio d'ici. Aujourd'hui, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre Kia Niro EV avec la clé numérique Two Touch sur votre téléphone. Chez Jean Dumas Kia d'Alma, aujourd'hui, allez plus loin et sans souci avec jusqu'à 407 km d'autonomie en mode tout électrique. Aujourd'hui, avec l'alimentation par le véhicule, vous pouvez brancher vos appareils électroniques et créer des moments mémorables partout où vous allez. Chez Jean Dumas Kia d'Alma, aujourd'hui, on célèbre 25 ans d'innovation au Canada. Embarquez dans le futur avec le nouveau Kia Niro EV. Profitez d'offres de location et de financement dès aujourd'hui chez Jean Dumas Kia d'Alma ou visitez kia.ca pour plus de détails. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Jean Dumas Multiconcessionnaire.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Aujourd'hui, c'est le tournoi de golf des fêtes du 350e et c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui est l'invité, qui est le président d'honneur. C'est l'ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi, Francis Véropol. Francis, bonjour.
Oui, bonjour, Michel, ça va bien?
Très bien. Es-tu un joueur de golf, toi?
Non, pas vraiment. Ben, en fait, j'adore ça, là. J'adore vraiment ça, mais je me donne jamais assez le temps pour y aller. Donc, je joue 2 à 3 fois par année.
Ah, t'es pas un joueur, t'es pas un joueur régulier parce que habituellement, les joueurs de hockey sont des joueurs de golf.
Oui, habituellement, en effet, mais j'ai jamais joué plus que 2 à 3 fois par année, même si j'adore ça.
Francis Véropol, quelle est ton implication dans les fêtes du 350e? Là, on t'a demandé d'être invité d'honneur. Qu'est-ce qu'on t'a demandé exactement pour leur donner un coup de main?
Oui, bien, dans un premier temps, Mme Joanne Simard, là, qui m'a interpellé de ça quand même quelques mois, me partageait un peu qu'est-ce qui s'en est pour le 350e anniversaire de Chicoutimi. Puis on m'a parlé, je sais que Chicoutimi, la ville, et par le biais de Joanne Simard, était déjà en contact avec la communauté de chez moi, Machtéa. Donc, elle m'a demandé d'être le président d'honneur, ce qui j'ai accueilli la nouvelle très humblement. Depuis ce temps, il y a eu un comité qui a été mis en place avec Jean-Daniel Fortin, qui est le directeur général, Philippe Wilkinson et Geneviève de Desjardins. On s'est impliqué un peu, dans le fond, pour la journée d'aujourd'hui, conseiller un peu comment toute la journée devrait se dérouler avec nos conseils, puis certains contacts aussi pour bonifier là, les joueurs qui vont être présents aujourd'hui.
Tu viens de le mentionner, Francis Véropol, la municipalité de Masteuillatch est impliquée dans plusieurs projets régionaux. Est-ce qu'on te demande souvent à Masteuillatch d'être porte-parole ou représentant de la municipalité, de la communauté?
Non, je dirais pas que ça m'arrive souvent. Parfois, je m'implique, j'adore ça. Je pense que quand je peux, quand on me le demande, je pense pas que c'est jamais arrivé que je dise non. Je me suis beaucoup impliqué avec les Saguenay également les 2 dernières années. Il y a eu le fameux match des anciens il y a 2 ans, l'année passée également. J'ai tellement reçu quand j'ai été de passage autant... à Chicoutimi, puis dans un premier temps, bien, la communauté, ma communauté d'appartenance, ma chéate, on m'a tellement appuyé dans mon cheminement que maintenant, si je peux, entre guillemets, redonner ou contribuer à quoi que ce soit, bien, c'est sûr que je veux m'impliquer.
Dans les dernières années, on a entendu un peu moins parler du joueur de hockey, Francis Véropol, qui a été l'une des vedettes chez les Saguenayens de Chicoutimi en raison de ta popularité et en raison de ta prestance. Où en es-tu dans ta carrière de hockey compétition, Francis?
Ouais, c'est pas mal terminé. En effet, ça fait 2 ans là, que j'ai complètement arrêté de jouer avec les Marquis, en fait. Ça, c'est pour 2 raisons. Là. Une raison, dans un premier temps, de santé. Là, ma dernière saison avec les Marquis, j'ai fait une commotion... je vais dire un coup quand même salaud par derrière, puis ça m'a vraiment ralenti parce que c'était notamment pas ma première commotion que j'avais en carrière. Donc, je me suis mis à réfléchir à ce moment-là, puis par la suite, j'ai eu un changement d'emploi également au niveau professionnel. Je m'étais rendu à Québec. C'est un emploi qui demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de voyagements également. Donc, les deux combinés ensemble ont fait en sorte que j'ai mis le hockey un peu sur pause. Là. J'étais toujours un peu en réflexion et tout ça. On dirait que j'ai encore ça dans le sang. J'ai encore le goût de jouer, mais en même temps, il y a ces deux aspects-là qui contrebalancent. Là. Donc, pour le moment, c'est statu quo. Là. Puis, je m'entraîne encore à chaque jour, etc. Je suis quand même en bonne forme physique, mais... un niveau compétitif, là, et c'est autre chose. C'est vraiment les blessures là, qui m'ont un peu, ralenti, puis me donné un peu un certain temps d'arrêt. Là. Fait que, je sais pas pourquoi j'ai de la misère à dire que je mets complètement une croix là, sur le hockey, parce que je pense que ça va toujours être mon sport préféré.
Francis, à tous les lundis, puis on va le faire tantôt à 16h, on discute avec des anciens joueurs des Saguenayens dans le cadre des 50 ans des Saguenayens de Chicoutimi. Tu as joué un rôle important dans l'équipe des Saguenayens de Chicoutimi. Est-ce que tu as encore des contacts avec des chums, des Sags, avec l'organisation, les coachs? Est-ce que tu parles encore avec des anciens du hockey, autant chez les Saguenayens, puis même avec les Marquis, parce que tu as joué un petit peu avec les Marquis?
Oui, définitivement. J'ai gardé de très bons contacts. En fait, mon passage avec les Saguenayens, au-delà du hockey, c'est des amis de vie là, que j'ai rencontrés, des frères. Si on pense à David Bernet, Nicolas Blanchard, Francis Lemieux, Julien Brouillette, des gens que je suis encore très proche. Je me suis lié aussi vraiment d'amitié avec Yannick Jean et sa famille, Annabelle. On s'est vu quelques fois cet été, là, Yannick et moi, donc ils ont chalé au lac Saint-Jean, je suis allé les visiter, donc je suis encore très très proche d'eux, puis comme tu l'as dit, là, au cours des dernières années, je me suis un peu plus impliqué avec les Saguenayens, là, ce qui m'a ramené au Centre Georges, je n'étais jamais trop retourné, puis ça a été vraiment une belle expérience.
Une dernière question, Francis, est-ce que ton passage avec les Saguenayens, la Ligue junior majeure, même la Ligue nord-américaine et les Marquis, est-ce que ce passage-là dans le hockey de grosses compétitions, est-ce que ça t'a aidé à avancer dans la vie? Est-ce que ça t'a donné des contacts pour ton travail maintenant, pour tes implications futures?
Tellement. Vraiment. Je suis capable de faire des parallèles avec mon passage au niveau des Saguenayens, mon parcours dans le hockey puis ma vie professionnelle à ce soir. Notamment si ce n'est que de la discipline, de la rigueur qu'on se doit d'avoir là, quand on évolue à un certain niveau dans le sport. Tu parlais de contact, définitivement, là, je me suis fait plusieurs contacts au fil des années. Puis également, tu sais, à chaque année, la dynamique de l'équipe change, tu as des nouveaux joueurs, tu joues avec des nouvelles personnes, nouveaux entraîneurs, etc. Donc, c'est toujours une certaine adaptation. Puis, lorsque tu te retires du monde du hockey, en tout cas pour moi, j'ai tenté de faire des constats, puis moi je suis une personne d'équipe, donc j'aime mieux le sport d'équipe que le sport individuel, puis j'essaie de transposer ça dans mon travail, là, l'importance de l'esprit d'équipe. Je pense que pour moi, je suis gestionnaire là, présentement, donc c'est extrêmement important qu'avant tout, le mieux-être de mes collègues prime. Puis qu'ils puissent offrir un espace où que les gens puissent s'épanouir puis se sentir valorisés. C'est toujours ça que j'ai voulu être puis voulu me sentir dans le hockey, puis je pense que plusieurs joueurs pourraient se reconnaître. Donc, j'essaie de transposer ça dans ma vie de tous les jours, puis sincèrement, ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, le sport. Ça va me suivre toute ma vie.
Francis, si tu permets, il me vient une dernière question. Je discutais avec Éric Gravel, le président des Marquis, en fin de semaine, puis il me disait, c'est pas facile de trouver des coachs. Il y a des anciens joueurs qui s'impliquent, d'autres ne le font pas. Est-ce que c'est un domaine qui pourrait t'intéresser dans le futur, le coaching, Francis?
Ouais, je ferme pas la porte, définitivement. Tu sais, j'ai encore vraiment un amour pour le sport, donc non, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse définitivement.
C'est noté, Francis. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bon golf, on va sûrement rejaser encore une fois dans le vestiaire bientôt.
Oui, définitivement, puis on se voit possiblement sur le terrain de golf.
Merci beaucoup, Francis.
Bye-bye.
Bye-bye, bonne journée.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en septembre, c'est du jamais vu. On t'offre 15% sur nos fameux Ram 1500 DT 2024 tout le mois de septembre. Aussi, tu penses changer ton véhicule à essence pour l'électrique, on t'offre jusqu'à 16 000 $ de rabais sur notre Cipou, 169 $ par semaine, 48 mois, 0 $ comptant. En septembre, c'est du jamais vu chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Place des aînés devient une réalité. À coût abordable, le plus beau complexe de condos locatifs pour retraités autonomes en plein cœur de la zone Talbot, rue Sauvignon, Chicoutimi. Près de tous les services, condos 2,5, 3,5 et 4,5 avec stationnement souterrain, garage chauffé plus un lavoto, confort avec meubles, garde-robe, comptoir de granit, petit îlot et laveuse sécheuse directement dans la salle de bain. Les retraités autonomes adorent. La retraite agréable à l'année, place des aînés. Réservée 88 812 06 82.
André du Saguenay, bonjour.
Oui, est-ce que Jimmy est là, s'il vous plaît?
Coucou, c'est moi, André.
Oh, excuse, je t'avais pas reconnu. Hey, écoute, Jimmy, j'ai entendu parler à mon retour de vacances de votre impressionnant nombre de ventes de Ioniq 5 que vous avez fait au mois d'août. Waouh, vous battez des records.
Incroyable, mon ami. Et c'est surtout pas terminé, car Hyundai vous offre le Kona en promotion à 99 $ par semaine, zéro comptant et électrique en plus. Fini l'essence.
Hey, tu dis moins de 100 $ par semaine, zéro comptant?
Exact, c'est du jamais vu pour un 2025 en plus.
Un 2025? Wow! Encore des records au mois de septembre, j'en suis persuadé, Jimmy.
Pour se démarquer, mon André, ça prend des bons prix, une bonne garantie, mais le plus important, le service.
Oui, chez Hyundai du Saguenay, vous l'avez le service.
C'est pour ça qu'on dit adhérer à plus. Boulevard René Lévesque, Jonquière.
On continue cette tournée des 50 ans des Saguenayens de Chicoutimi. On est déjà rendu à quoi, 51, 52e année. Mais c'est toujours le fun de discuter avec les joueurs qui ont fait un passage avec les Saguenayens, que ce soit de près, de loin. On est allé dans les années 70, 80, 90. Mais là, on va reculer il y a 6-7 ans. Il n'y a pas si longtemps, un joueur qui a fait un passage d'une saison avec les Saguenayens et qui est toujours un joueur actif, cette fois-ci dans la Ligue nord-américaine de hockey. Je vais laisser notre ami Yves Bolduc le présenter.
Oui, merci Dominique. Alors oui, effectivement, un joueur natif de Saint-Lin-des-Laurentides qui a disputé une saison avec les Saguenayens, sa dernière. Et je pense qu'il pourra nous confirmer que ça a été la meilleure saison de sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 23 points, 60 matchs disputés, mais des impressionnantes séries éliminatoires de 11 points en 15 matchs. Et il a été un choix de quatrième ronde en 2013, le 73e au total de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, bien, il est un ennemi des gens de Jonquière puisqu'il évolue pour les pétroliers de Laval dans la Ligue nord-américaine de hockey. On va le rejoindre immédiatement. Brandon Benjamin, c'est son frère. Brandon, bon après-midi.
Salut les boys, ça va bien?
Très bien, très bien.
Yes.
Brandon, parle-nous de ton coin de pays quand tu as commencé à jouer au hockey. Là. Ça a commencé comment, les patinoires extérieurs avec tes amis, tout ça?
Oui, dans le fond, moi, c'est ça. Comme tu as mentionné, je viens de Saint-Laurentide, là, une petite ville sur la rive nord de Montréal. Puis j'ai commencé à 3 ans, comme tout jeune joueur de hockey, ma première paire de patins à 3 ans. Puis j'ai tout de suite tombé en amour avec le sport. Là. Fait que j'ai fait mes classes, c'est ça, c'est la rive nord. Puis ensuite, j'ai été une jet 3 à Blondin. Ensuite, j'ai été repêché par l'Armada, puis après, c'est ça, j'ai eu ma carrière junior avec l'Armada puis les Saguenayens. Mais en tant que meilleur souvenir de dehors, j'ai pas de patinoire fétiche ou quoi que ce soit, mais je me rappelle que j'avais tout le temps mes patins, puis aussitôt que l'école finissait, j'étais le premier sur la patinoire dehors, là, même s'il faisait pas beau.
Brandon, tu fais partie du groupe des anciens qu'on accueille chaque semaine depuis janvier 2022 sur nos ondes. Parle-nous d'une personne qui a exercé une grande influence dans ta carrière de hockey junior.
Oui. Si je me fais exemple juste à Chicoutimi, là, il n'y a pas eu vraiment quelqu'un en particulier, mais je pense que c'est plus un groupe de personnes. Là, je me rappelle juste quand j'ai été échangé, l'accueil des joueurs. Il y avait Népé, Yannick Jean, Marc Denis, Joanne Leblanc qui était... qui s'occupait des études. Puis il y avait aussi ma famille de pension. Je pense que c'est plus un ensemble de toutes ces personnes-là qui a fait que mon parcours à Chicoutimi a été un succès puis que j'ai vraiment eu du fun.
Parce que j'imagine qu'après avoir joué 3 saisons avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, tu résidais chez toi, tu n'étais pas en pension à Blainville.
Exactement, c'est ça. Fait que c'était ma première expérience en famille de pension. Puis je me rappelle, on jouait, je pense, à Roberval, une game hors concours. Puis j'étais arrivé vers 2-3 heures du matin. Puis ma famille de pension était là. Fait que ça a été le premier contact avec eux. Puis c'est ça.
Ça s'est passé...
Oui, vas-y, Dominique.
Vas-y. Et ça s'est passé comment, justement, ton premier contact, là? Parce que un joueur qui arrive de la région de Montréal, qui a toujours évolué à Montréal, est-ce que ça t'a fait peur de venir au Saguenay?
Non, ça m'a pas fait peur. J'avais eu des bons commentaires d'anciens joueurs. Puis la ville de Saguenay a tout le temps été une ville de hockey. Fait que non, j'étais pas stressé. Ma plus grosse adaptation, ça a été au niveau de la langue, je te dirais. Des fois, il y avait des expressions que je me disais, je comprends pas trop. Prendre le clos, je connaissais pas ça. Mais sinon, Non, c'était plus au niveau de langage qui était plus difficile.
Durant ton court parcours à Chicoutimi, Brandon, c'était quoi ton surnom? Puis qui étaient tes meilleurs amis dans l'organisation?
Oui, on me surnommait Hammer. Les Anglais avaient de la misère à dire Hamelin.
OK. C'était
à cause de ça. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que mon père récemment a lancé sa marque de bière, puis il l'a appelé la Hammer. Ah. Fait que je fais une petite pub en passant, là, mais ça se peut qu'elle arrive à Chicoutimi bientôt.
Ben écoute, lors de ton prochain passage avec les pétroliers, amène-en une bouteille, on va y goûter.
Parfait, c'est bien parfait.
Oui, parce que Dominique a une chronique, je pense, le vendredi après-midi où il teste des bières.
Des bières. On teste des bières, puis en même temps, je suis descripteur des marquis à la radio, fait qu'on garde contact.
OK, c'est parfait, je vais t'amener une 6.
Parfait.
Et depuis la fin de ta carrière junior, Brandon, est-ce que tu as revu des matchs de la LHGMQ? Puis si oui, malgré le court délai, quand même 2016-2017, qu'est-ce que tu as remarqué de différent par rapport au moment où toi, tu as joué?
J'ai remarqué des games, je te dirais, après mon passage, quand j'ai fini, mettons, peut-être un 3-4 ans après, mais après, j'ai vraiment essayé de décrocher. Fait que depuis, c'est sûr que l'abolition des bagarres, j'ai pas vraiment regardé, puis je suis pas quelqu'un qui prend de la violence, loin de là. Mais j'ai l'impression que ça rend les joueurs qui étaient baveux encore plus baveux. Puis les joueurs qui étaient salauds peuvent être encore plus salauds. Fait que j'ai un peu décroché, je te dirais, depuis l'abolition des bagarres. Là. Si je te donne un exemple, tu sais, juste moi, exemple, il y a 2 ans dans la NH, j'ai frappé quelqu'un de dos. Puis, tu sais, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je réponde à mes actes. Fait que j'ai droppé. La journée d'après, on jouait contre la même équipe, mais là-bas. Fait qu'il fallait que je redrop pour. J'avais encore des. Il fallait que je réponde à mes actes. Puis quand le gars il est revenu, le gars que j'ai frappé d'eau, ben, j'ai failli me rebattre encore une troisième fois. Fait que quand je vais dans le coin et que je vois un numéro, c'est des choses comme ça qui fait réaliser que tu y penses deux fois avant de faire ça. Là. Sinon, j'aime me battre encore 3 fois. Puis c'est pas ce que j'aime le plus faire. Fait que j'imagine la GMQ, c'est ça. J'ai pas vu le niveau depuis. Mais je suis sûr que ça doit être le même niveau. C'est juste au niveau de ça que j'ai un peu de la misère. Là. Mais ça, c'est ça. C'est une opinion un peu personnelle.
Oui, c'est une opinion qui était partagée par plusieurs partisans et observateurs. Mais on doit avouer, par contre, que depuis ces 2 ou 3 ans que les batailles ont été complètement bannies, il n'y a pas eu tellement de gestes disgracieux qui ont été notés depuis ce temps-là.
Bon, je suis content d'entendre ça. Au moins, oui.
Parle-nous maintenant de ta situation familiale, conjointe, enfant, si c'est le cas. Qu'est-ce que tu as fait après ta carrière junior? Qu'est-ce que tu fais maintenant et où tu habites?
Oui, j'ai une blonde, ça fait maintenant 1 an. J'ai pas encore d'enfant, mais le projet va arriver bien vite, j'imagine. Après ma carrière, j'ai été 1 an à Concordia, à l'université. Puis ensuite, je me suis exilé en France pendant 1 année. Puis maintenant, moi, j'ai toujours adoré le domaine de l'investissement, donc la bourse. Donc, j'ai été chercher mes cours pour faire de la gestion de portefeuille pour les clients à valeur nette élevée. Donc, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis, c'est ça. Puis, je demeure à Laval, à côté de mon travail, puis à côté de l'aréna des pétroliers. Là, j'étais à 10 minutes, fait que c'est pas mal ça.
Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de famille chez toi parce que ton père, tu nous
dis. Exactement, oui. Il est parti, ben c'est ça, c'était son projet. C'était son projet de retraite. Il y a eu des Subway pendant plus de 20 ans. Puis il a pris la décision juste un peu avant la pandémie de vendre ses restaurants. Puis là, il cherchait un peu un projet. Fait que c'est ça. Il s'est lancé dans la vente de bière avec sa propre bière. Fait que ouais. L'entrepreneuriat a tout été dans le sang, ouais.
Et ta mère, je pense qu'elle est dans la gestion de restaurants aussi, je pense.
Exactement, oui. Ouais. Avec le groupe Benny. Fait que ouais.
Ça vient des parents.
Exactement, oui.
Bon. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de ton passage avec les Saguenay. Est-ce qu'il y a personne qui t'a marqué le plus pendant ton passage avec les Saguenay?
Mon meilleur souvenir, ce qui m'a marqué le plus, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs moments, mais je pense qu'il m'a marqué le plus, c'est ma famille de pension, honnêtement, avec Steve, Cynthia, puis leur petit gars Joey, qui est maintenant rendu un adulte. Comme je disais au début, ils m'ont vraiment appris sous leur rôle depuis le début, puis je me suis tout de suite senti chez nous. Fait que ça, c'est de quoi que je serais toujours. J'ai remercié toujours pour ça. Puis tu sais, on garde encore contact. justement, il y a 3 semaines, j'ai fait un tour au Saguenay. Je suis revenu au Saguenay. J'ai été les voir. Fait que on a gardé vraiment un lien étroit, toute la gang ensemble. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Ouais, ils vont voir que lorsqu'ils peuvent, ils vont voir jouer les Marquis. Ils vont à Jonquière. Fait qu'on se parle souvent après. Puis, non, c'est ça. Fait qu'on a vraiment gardé un bon lien, là, tout le monde ensemble.
Lors de ton passage au niveau junior, Brandon, quels ont été les arénas de la Ligue, outre le Saint-Georges Vézina, où tu as connu tes meilleurs puis tes moins bons matchs?
Mes moins bons, je te dirais, de souvenir. Ben c'est parce qu'il est arrivé un événement, là, c'est à Halifax. J'avais eu un entorse au poignet. Première game, je pense, de notre voyage dans les Maritimes. Puis j'avais passé la nuit à l'hôpital, c'est ça. Puis j'avais eu un entorse au poignet. Puis sinon, les petites arénas, j'ai tout le temps eu un peu plus de misère. Tu sais, j'étais un joueur qui aimait ça avoir de l'espace. Fait que si on prend les arénas, exemple, à Bathurst, c'est petit. Tu sais, à Abitibi, dans Rouyn, Val-d'Or, c'est des petites arénas. Fait que j'avais toujours un peu moins de succès. Là, mais puis pour mes meilleurs, je te dirais, il n'avait pas en tant que tel, mais à Victoriaville, je pense que c'est Colisée Desjardins, à Victo. Oui. C'est comme là que j'ai comme pris ma lancée là, avec les sacs en série. Là, je me rappelle, je jouais jamais en désavantage numérique. Puis troisième game de la série, je pense. Puis tu sais, je jouais sur une troisième ligne. J'avais pas tant beaucoup de temps de glace. Puis j'avais jamais joué en désavantage numérique. Puis Yannick Jean, il m'avait tapé dans le dos. Puis il dit Hammer, vas-y. Là, j'étais comme c'est bol. OK. Fait que là, finalement, j'avais scoré. Puis là, c'est là que ça avait comme débloqué. Puis là, c'est ça. Après, je jouais sur la première ligne. Puis. Fait que ça a comme été l'élément déclencheur, je te dirais, en fin de carrière junior à Victo. Mon chiffre, c'est sans désavantage numérique que j'avais scoré, puis ça avait comme débloqué. Ouais, c'est pas mal ça.
Tu nous as parlé tout à l'heure que tu t'es exilé en Europe pour une saison. Tu es allé en France, à Nantes, en deuxième division lors de la saison 2021. Parle-nous un peu de cette expérience-là, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là?
Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que la pandémie est arrivée, puis la Ligue nord-américaine, il y avait juste pas de saison due à la pandémie. Puis en France, on continue à jouer, fait que j'ai eu une offre d'aller là dernière minute. Fait que j'ai été là-bas, puis c'était une belle expérience, mais on était en plein de pandémie. Fait que c'était le masque en tout temps, il y avait un couvre-feu à 5 heures le soir, il fallait que tu sois à ton appartement à 5 heures, tu n'avais aucun partisan. Fait que tu sais, c'était un peu ordinaire. Puis en plus, ben, tu sais, ça a bien été quand même côté statistique, là. J'ai fini quand même premier pointeur de la Ligue, mais en série, ils ont comme fait un genre de tournoi. Puis c'était comme des games suicides. Puis on s'est rendu en finale de ces games suicides-là, du petit tournoi. Puis première période, sont un peu plus sévères sur les mises en échec. Puis sur fait que j'ai pogné un extrême conduite, mon deuxième chiffre, je pense. Puis extrême conduite, fait que j'ai été suspendu, puis ma carrière en France a terminé là. On a perdu, je pense, 3-1, mais j'ai pas joué de la game. Fait que tout ce chemin-là en France pour se terminer par ça.
Par une suspension.
Oui, une suspension. J'ai resté beaucoup amer de la décision des arbitres, mais bon, c'est un autre chose.
Ouais. Puis, mais tu risques pas de les rejoindre.
Non, c'est bien correct d'avant. Puis au niveau de la Ligue nord-américaine, honnêtement, moi, c'est la Ligue que j'ai le plus adoré jouer, là, honnêtement. C'est vraiment... Tu sais, j'ai commencé il y a 5 ans, c'était 3-4 batailles par game. Puis le jeu, oui, était bon, tu sais, c'était rapide, mais là, c'est vraiment rendu, honnêtement. Je pense qu'on peut juste le voir avec l'assistance, là. Je pense à Jonquière, il y avait 3200 personnes l'année passée, tu sais, en fin de game, en série. Puis l'ambiance était... Jonquière est incroyable, à Laval est incroyable. Vraiment, dans toutes les arénas de la Ligue, je te dirais. Puis il y a un engouement aussi, je pense, avec les deux nouvelles équipes. Là,
bien, on le voit avec les joueurs. On s'aperçoit avec les nouveaux visages qu'on a cette année. Tu sais, t'embarques à peu près une quarantaine, une cinquantaine de nouveaux joueurs. Puis il semble, on dirait qu'il y a une liste d'attente de joueurs qui sont en Europe. Puis là, ils entendent parler de ça. Ils disent, hey, je serais peut-être intéressé à revenir aussi. Là.
Exactement. Puis même, moi, je ferais une comparaison parce que j'ai été remplacé 3 games avec les Lions de Trois-Rivières.
Oui.
Puis je me disais, on prend. Toutes les meilleures de la LNH, je suis sûr que si on fait une game contre les Lions de Trois-Rivières ou une équipe de la East Coast, je suis sûr qu'on aurait une chance. Honnêtement, c'est ça. La seule différence, c'est que dans la LNH, les gars, ils ont des shapes de plombier. Puis dans Isco Six, c'est des shapes de pompier. Tu sais, LNH, c'est une petite bédaine de bière. Puis les gars, Isco sont en shape.
Là, ben, c'est ça, le niveau des pratiques n'est pas pareil là, dans LNH.
Ben non, c'est ça. Nous, on est la seule équipe qui pratique. Je pense qu'il y a Sorel aussi qui pratique.
Un petit peu, ouais.
Mais dans Isco, ils sont 72 games, plus les pratiques à tous les jours. Puis c'est vraiment un travail. Là. Les gars font juste ça. Exact. C'est sûr qu'ils sont plus en shape, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nécessairement meilleurs ou qu'ils ont un meilleur pedigree. Fait que. C'est pas mal, ça.
Parle-nous d'une anecdote inoubliable avec les Sags.
J'ai peut-être pas d'anecdote inoubliable, mais j'ai peut-être un moment en séries éliminatoires contre Rouyn-Noranda, Game 7. On s'en va, on gagnait 3-2, je pense, en série. Puis c'était, dans le fond, là, vu qu'on était loin, c'était deux games. 2-3-2, ouais, c'est ça. Fait que on terminait là-bas. Fait qu'on gagnait 3-2. On a perdu à Game 6, je pense. Faire comme 9-1 ou 9-2, là, on se regardait dans le chambre, on est comme, ouais, ça va être tough game 7, en plus à Rouyn. Puis, on perdait 2-1 après deux périodes de mémoire. Fait que là, je me rappelle pas qui s'est élevé dans le chambre, mais il avait fait un speech en voulant dire que les gars, on s'est pas rendu là pour perdre 2-1 en finale, nanana. Je pense à 10 secondes ou à 15 secondes de la troisième période, ils ont scoré 3-1, là, on se regardait tout sur le banc. Les gars, on était à terre bien raide. On dit, ah, tu sais, la troisième va être longue. Finalement, encore en désavantage. J'ai fait 3-2, mais j'ai eu une passe, ça a fait 3-2. Après, Climat, il avait pas eu une punition. Il restait 3 minutes à game. Oh. J'avais été en désavantage. Je m'avais embarqué. On avait enlevé le goaler 5 contre 5. Il y avait eu un autre passe, le but de Galipo. Puis après, Galipo il avait fait le but winner en overtime. Ouais. Je me rappelle quand on était arrivé à la c'était à Bagotville, je pense.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Les fans, ils rentrent 3h du matin, je pense qu'il devait y avoir 5000 personnes.
Ah, ça a été. Je me souviens incroyable. Encore de ces séries-là, ouais. 2017. Ça avait été extraordinaire de vous voir avancer parce que l'équipe avait fait quand même quelques mouvements. C'est un gars comme Joey Ratel qui est arrivé, ouais. Qui était tout feu, tout flamme. Vous aviez Galipo. Vraiment surpris. Galipo également, ouais, oui, ben oui, qui était probablement le meilleur défenseur à ce moment-là dans la ligue. Oui, absolument.
Ouais. C'était tout. C'est une game. Je pense que c'est la game où il y a eu le plus de rebondissements dans ma carrière que j'ai vécu, honnêtement. Là, c'était vraiment des beaux souvenirs.
Qui a été le meilleur joueur avec lequel tu as évolué avec les Saguenayens?
Définitivement Nicolas Roy. Oui. Pas juste pour le joueur, mais l'individu qui était. Tu savais, ce gars-là allait faire la NHL. Là, c'était un vrai pro. From day one, aussitôt que je l'ai vu, je suis arrivé sur Miami Arenas, j'ai dit, c'est sûr, ce gars-là va jouer à NHL. Là, il était... Tu sais, des fois, on avait, mettons, des soirées en boys que tout jeune de 18, 19, 20 ans ont. Mm. Puis lui, il restait chez eux, puis il s'y tirait, puis il jouait aux jeux vidéo, puis il prenait de l'eau avant de se coucher. Là. Il était vraiment sa coche. Comme... Puis tu sais, c'était notre capitaine en plus, fait qu'on avait, l'image de ça. Fait que c'était dur de dérailler, c'est ça, dérailler de la traque un peu quand t'as un leader comme ça dans la chambre. Là. Fait que...
Tu as porté le numéro 91 avec les Saguenayens. Est-ce que ça avait une signification pour toi?
Pas nécessairement, mais c'est sûr que mon joueur préféré dans le temps, c'était Steven Stamkos. Fait que, puis auparavant, c'était Ilya Kovalchuk, mais le 17 était pris. Donc, c'était la raison pourquoi du 91. Puis, je trouve que c'était un beau numéro quand même.
Lors de la saison 2016-2017, alors que tu t'alignais avec les Cobras de Terrebonne dans la Ligue Junior 3A, tu as été nommé le joueur par excellence de la saison après une récolte de 36 buts et 122 points. Parle-nous de cette saison-là qui t'a un petit peu propulsé également après.
Oui, c'est ça. C'est une saison vraiment, vraiment incroyable. J'avais été un peu déçu que les Sags ne me gardent pas. Fait que, j'avais un salaire exemple en dedans de moi que je voulais dire, je vais le reprouver. Puis finalement, ils m'avaient échangé à Val-d'Or, mais qui était dernier dans le classement. Là. Fait que j'avais décidé de rester à Terrebonne. Puis c'est ça, j'ai eu une très bonne saison côté statistique, mais encore là, on a perdu en game 7, game finale contre le CF. Fait que j'ai resté encore amer. Une autre déception côté hockey. Mais c'est pas grave, j'ai une super belle, une belle saison. Hein.
Pour le bénéfice de nos jeunes auditeurs qui écoutent attentivement puis qui regardent les joueurs juniors majeurs comme des idoles, tu n'as pas eu la chance d'être repêché dans la Ligue nationale. Pour le bénéfice de nos jeunes, qu'est-ce que tu aurais fait de différent pour arriver là et pour attirer l'attention des dépisteurs?
Ouais, très bonne question, mais honnêtement, y penser, je pense que j'aurais fait la même chose. Tu sais, je crois beaucoup à la phrase « rien n'arrive pour rien en vie ». Puis dès que j'arrivais vers 18-19, je savais que j'allais pas faire un joueur professionnel. Puis dans le fond, la finance et les marchés boursiers m'ont toujours intéressé. Puis comme je te dis, même à 18-19, je tradais déjà de mon côté de mon bord. Puis le hockey avait déjà commencé à prendre une seconde place dans ma vie. Fait que il n'y a pas d'autre chose que j'aurais faite, je pense. Parce que même en étant repêché en ayant une carrière professionnelle, je suis pas sûr que rendu à 25, 26, 27, j'aurais encore fait ça. Là, fait.
Pendant ta saison à Chicoutimi, quels sont les lieux que tu fréquentais dans tes moments libres?
Le Dooley's.
Populaire, oui.
Ouais, populaire. Pas juste pour la bière, là, pour le golf. Mais non, à part ça, j'allais beaucoup à la pension de Fred Allard puis Vincent Lapalme. Les deux étaient jumelés ensemble. Puis mes souvenirs, c'est qu'on écoutait souvent le NCAA, football puis basketball. Là. C'était pas mal ça ce qu'on faisait lorsque le hockey puis les études étaient finies. Là.
Dans tes souvenirs, que tu nous as parlé tout à l'heure de quelque chose qui te rappelait de bons souvenirs lors de la série avec Roy Noranda. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu d'étrange avec les Saguenay?
Beaucoup d'histoires que je peux probablement pas compter, mais une que je me rappelle, à un moment donné, je jouais à Rattel. On avait été chercher, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, puis il y avait eu un bris d'auto. Puis il m'avait dit, Hammer, peux-tu venir me chercher avant la game? J'ai pas mon auto. Fait que j'avais été chercher, puis il dit, hey, j'ai pas eu le temps de manger, je me suis fait un repas bien rapide, tu sais, notre pre-game meal qu'on appelle, là, qu'on mange à peu près 3 heures avant la game. Puis il avait ouvert un plat de Tupperware, puis c'était 2 pogos dans le toaster. Puis il y avait eu une méchante game. Il y avait eu une méchante game. Fait qu'après les games, il mangeait pas avant les games, son pre-game meal, c'était rendu ça. 2 pogos dans le toaster. Fait que côté nutrition, je sais pas si c'était bon, mais je pense que c'était plus rendu mental. Là. Mais après ça, je me suis dit, je peux pas voir ce gars-là, il fait 2-3 buts par game, puis c'est 2 pogos, pas de ketchup, pas rien. Là. Fait que je pense que c'est une des choses les plus étranges que j'ai vues. Là.
Wow.
Ouais.
Est-ce que tu as gardé contact avec certains de tes anciens coéquipiers des Saguenayens, puis qui sont-ils?
Pas tant que ça, parce que les gars, ils étaient pas mal loin. Il n'y avait pas vraiment de monde qui venait de Laval-Montréal. Là. Fait que il y a Joey Rattel qui a joué encore parce qu'il était à Thetford Mines. Qui a changé. Il est rendu où donc?
C'est ça, il est à Jonquière.
À Jonquière, oui, c'est ça. Il était à Thetford, puis il était changé à Jonquière. Mais sinon, à part de ça, il y a peut-être Vincent Lapin puis Samuel Hood qui vient de mon coin. Fait que des fois, on se croise dans les DT, puis on a des amis en commun. Fait que des fois, ça arrive qu'on a des soirées ensemble, mais sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres personnes que j'ai resté en contact avec.
Si tu n'avais pas joué au hockey, Brandon, quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer professionnellement?
Le baseball, je pense. J'ai un grand fan de baseball. Je me rappelle, j'avais une paire d'étiquettes pour le dernier match des Expos.
Oh!
En 29 septembre 2004. Puis je me rappelle comme ça, j'avais 7 ans. Puis c'est le dernier souvenir, c'est ça, de baseball que j'ai, mais c'est ça, je pense que j'aurais aimé ça. Je jouais quand j'étais jeune, d'ailleurs, mais après, le hockey a comme pris une trop grosse place, fait que j'ai arrêté. Mais ouais, je pense le baseball.
Tes souvenirs sont tristes, là?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Lorsque tu étais à l'école, ton sujet préféré quand tu étais plus jeune, à part l'éducation physique?
L'histoire. J'ai tout le temps été un gars qui voulait s'informer puis qui aimait l'histoire, savoir pourquoi la société est rendue ainsi aujourd'hui. Fait que, ouais, l'histoire.
Il nous reste quelques minutes, Brandon. Dominique va fermer ses oreilles puis Bob Desjardins ne nous écoute pas. À quoi ressemblera les pétroliers de Laval cette année?
Très compétitif. On a eu une grosse transaction récemment. Oui. On a changé notre défenseur étoile. Pour des gars de la région ici qui ne voulaient pas aller jouer ailleurs. Mais on a été chercher 3 bons joueurs. J'ai très hâte de voir ça. Puis on a quelque chose à remettre à nos partisans quand même. Ça fait 4 ans, mais depuis que je suis arrivé, que ce soit une défaite en finale ou une défaite, puis on a tout le temps un gros club. Fait que c'est ça. On va avoir une autre grosse saison. C'est ça, avec l'arrivée des 2 nouvelles équipes, je pense qu'ils vont encore plus un engouement pour la Ligue. Puis ça va juste être bénéfique pour la Ligue. Puis non, c'est vraiment la Ligue, ça en va du bon côté. Puis j'ai hâte de voir les prochaines années, mais on est dans le bon sens. On est loin des années où c'est ça, il y a 4-5 batailles par game, puis que le monde vient juste voir ça. Là. Puis, ce qui est le plus ironique là-dedans, c'est que le monde chiale qu'il n'y a plus de batailles, mais les assistances font juste monter. Fait que,
c'est ça,
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, mais non, c'est ça.
Mais il y a un changement au niveau de la clientèle, puis on le voit. Puis
aussi,
tu parlais de défaut à la Jonquière. On voit beaucoup de jeunes qui viennent de plus en plus, des jeunes adultes également.
Exactement. C'est parce que, exemple, tu fais une carrière en France ou quoi que ce soit, tu arrives à 30-35 ans, si tu n'as pas d'école, si tu n'as pas rien, tu fais quoi? Tandis que cette ligue-là te permet de concilier hockey plus ton travail.
Fun, ça.
Puis, tu sais, les gars qui sont quand même très bien rémunérés aussi, là. Fait que c'est pas... tant qu'à rester chez vous, tu es mieux d'aller jouer au hockey puis poursuivre ta passion un peu sans nécessairement être dans les pratiques puis que ça soit trop sérieux. Puis je pense que le spectacle, les fans sont contents puis ça répond aussi dans les estrades. Fait que les assistants sont en hausse partout dans la ligue, là. Fait que... Les gars viennent au Québec.
Il faut le dire aussi, l'encadrement semble beaucoup meilleur. Je regardais cette semaine la conférence de presse du National de Québec.
Oui.
Je disais il y a quelques jours qu'il reste seulement qu'une cinquantaine de billets de saison pour le bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, l'engouement effectivement est bon. Et puis, ça va faire du bien également d'avoir 8 équipes dans ce circuit-là. Les matchs contre les mêmes formations vont revenir un peu moins souvent.
Puis je pense qu'on met aussi beaucoup d'accès sur le marketing, tu sais, la belle image de la ligue.
Exactement.
Je pense que les gens embarquent. Fait que j'ai vraiment hâte de voir dans les prochaines années, mais le calibre est très, très bon.
Ben Brendan, ce sera un grand plaisir d'aller te serrer la pince lors du premier match de la saison. On sera à Laval le 4 octobre prochain.
Yes, parfait. Je vais vous en donner une bière, les boys.
Hey, parfait. Merci beaucoup.
C'est bon. Salut.
Yves Bolduc, quel est notre prochain invité la semaine prochaine?
La semaine prochaine, on va parler avec un joueur qui a passé 3 saisons dans l'uniforme des Saguenayens au début des années 90. Ce sera Dave Tremblay qui sera au micro.
Merci beaucoup, Yves.
Merci, bonne semaine.
Et merci également, encore une fois, à Brendan Hamblin, ancien des Saguenay-Chicoutimi, qui joue maintenant pour les Pétroliers de Laval. Toujours un grand plaisir de discuter avec ces joueurs et de leur passage. Puis il a parlé de son passage avec les Saguenay, un peu court, un peu moins d'un an, maintenant avec la Ligue nord-américaine et les bons mots qu'il a amenés. Je pense que c'est un peu la lignée de ce qu'on a depuis quelques semaines, de ce qu'on jase de ce circuit senior. Il est 16h27, on ferme le vestiaire dans quelques instants. C'est le retour du 92.5, un retour assez rempli.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en septembre, c'est du jamais vu. On t'offre 15% sur nos fameux Ram 1500 DT 2024 tout le mois de septembre. Aussi, tu penses changer ton véhicule à essence pour l'électrique, on t'offre jusqu'à 16 000 $ de rabais sur notre superbe Dodge Hornet hybride 2024. Ou 169 $ par semaine, 48 mois, 0 $ comptant. En septembre, c'est du jamais vu chez...
L'Étoile.